militaire. Julien Paluku-Kahungia en a profité pour annoncer que c'est dans le cadre de l'opération Nord Kivu sans armes qui consiste à pacifier la province. Cela porte à 161 armes déjà récupérées et remises à la région militaire en l'espace de 45 jours. À l'occasion, le gouverneur Paluku a réitéré son appel à ses administrés qui détiennent illégalement les armes de leur émettre aux sensibilisateurs. Coup d'envoi aujourd'hui en RDC de la vaccination des enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite. Cette campagne s'étendra jusqu'au 5 mai. En même temps, la semaine africaine de vaccination débutée le 30 avril se poursuivra jusqu'au 6 mai. Selon le médecin directeur du programme élargi de vaccination, cette campagne inclut aussi la vitamine A et le mebendazole. Elle est appuyée par l'UNICEF et l'OMS pour environ 15 millions de dollars. Le docteur Audrey Moulumba explique ici la stratégie de cette campagne au micro de Jocelyne Sungo.
La stratégie que nous allons appliquer, c'est une stratégie porte à porte. Nous avons les zones de santé. Au niveau de chaque zone de santé, il y a d'abord au niveau national une coordination qui est pilotée par le ministre. Et au niveau de province, il y a aussi des comités de coordination qui sont pilotés par le gouverneur des provinces. Et comme le gouverneur n'a pas suffisamment beaucoup de temps, et c'est le ministre de la Santé qui pilote ça. Mais au niveau des zones de santé, c'est l'autorité, c'est l'administrateur du territoire. Et les équipes vont vers les enfants afin de leur donner le deux de vaccins et aussi de leur donner la vitamine A ainsi que le mebendazole. Le parent suivant chaque fois un communicateur, quelqu'un qui est en train de crier, qui va leur dire aujourd'hui c'est cette avenue ou c'est ce village ou c'est ce quartier qui va être visité et ils attendent les équipes passer dans les parcelles. Il y aura également les équipes repositionnées au niveau des lieux d'attraction, au niveau des gares, au niveau des arrêts de bus, dans les marchés et même dans les écoles.
À qui ça soit, il est 11h03, c'est la fin de ce bulletin des nouvelles. Merci d'avoir écouté.
Moi, je suis André du mouvement locataire oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. C'est une compagnie au personnage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour près de 57 minutes d'échange et de partage dans Parole aux auditeurs. C'est jeudi 3 mai 2012, nous parlons de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1993 après la tenue du séminaire sur le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste à Windhoek en Namibie. Et dans leur message à l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU et la directrice de l'UNESCO ont fait savoir que cette journée offre l'occasion d'appeler l'attention sur la lutte en faveur de la liberté de médias. Dans son dernier rapport, l'ONG de défense des droits des journalistes et journalistes en danger tire la sonnette d'alarme. Selon GED, qui a enregistré 64 cas d'attaques dirigées contre la presse depuis la fin des élections de novembre 2011. Que pensez-vous de l'évolution de la liberté de la presse en RDC? C'est la question principale dans notre émission. Et pour cela, nous recevons dans ce studio M. Joseph Alain Kabongo, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique. Marie Chantalumba, Sylvain Poutou sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Sylvain Matondou, Pierrot et la Méji vous la présente, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Et vous pouvez également réagir en nous déposant votre commentaire sur la page Facebook de Paroles aux Auditeurs. C'est la page qui porte les logos officiels de Radio Capi. Mais également réagir à l'adresse pa@radiocapi.net. Messieurs Joseph Parrain et Kavongo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Olpa observe, bien sûr, comme on le dit, la liberté de la presse en RDC. Et je crois bien, ça fait longtemps que vous le faites. Le GED a fait voir que depuis novembre 2011, avec la situation des élections juste maintenant, la situation n'est pas bonne. Il y a eu une augmentation de 83% des cas d'attaque et d'atteinte à la liberté de la presse. Et au niveau de Olpa, comment expliquez-vous le fait que la situation puisse se détériorer au fur et à mesure? Et pourtant, quand on regarde l'histoire, l'évolution de la démocratie, peut-être qu'on pourrait, ou on pouvait être à une situation où la liberté de la presse s'améliore. Comment expliquez-vous cela au niveau de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique?
Bon, la situation est là et nous l'assumons. Donc, nous également, nous avions eu des espoirs. Nous pensions qu'après les élections de 2011, la situation allait s'améliorer. Parce qu'on nous avait fait croire que non, on serait entré dans un régime démocratique. Et vous savez que la liberté de la presse est un des piliers de la démocratie. Nous nous sommes dit que comme c'est la démocratie, certainement qu'on respecterait la liberté de la presse. Mais la situation est là. Les cas d'atteinte à la liberté de la presse ne cessent de s'accroître. Les attaques contre les médias, les interpellations, les agressions, donc, ils sont devenus les lots quotidiens des journalistes aujourd'hui. Et nous n'arrivons pas à comprendre cette situation. Bon, nous mettons cela aussi sur le dos du manque de la volonté politique dans les chefs de nos dirigeants. Parce que la protection des journalistes, c'est l'apanage du pouvoir public. Mmh. Et quand le pouvoir public ne fait rien, je ne sais pas si les journalistes se disent qu'ils se protègent aujourd'hui lui-même, ce serait le recours à la justice privée, ce qui n'est pas normal dans un État moderne. Donc, la responsabilité incombe d'abord au pouvoir public de protéger les journalistes et les médias. Mais nous constatons que ce sont souvent les services de l'État qui sont les auteurs, les premiers auteurs des violations de la liberté de la presse. Donc, nous partageons ces points de vue des journalistes en danger, que la liberté de la presse continue à être menacée.
Et quand on parle de menace de la liberté de la presse, comment vous structurez cela? Ce sont des arrestations, ce sont des agressions physiques, ce sont des procès. Comment au niveau de Olpa vous structurez tous ces cas-là dans l'ensemble? Et si on peut le prendre individuellement, comment cela se surfile?
Oui, dans la conduite de sa campagne d'alerte, Olpa n'a pas innové. Olpa se réfère à une typologie qui est adoptée par tous les défenseurs de la liberté de la presse du monde entier. C'est-à-dire que en défendant la liberté de la presse, il y a on catégorise. Donc il y a une première catégorie, on parle par exemple des journalistes tués, et puis une seconde catégorie des journalistes portés disparus, une troisième catégorie des journalistes emprisonnés, et puis une autre catégorie des journalistes interpellés, des journalistes agressés ou harcelés, menacés, et les entraves à la libre circulation, les pressions judiciaires et administrative, donc c'est catégorisé.
Et quand on regarde l'évolution, peut-être en 2011 et juste maintenant, 2012, on se réfère bien sûr au GED, on n'a pas eu de cas d'assassinat dans cette période, je crois bien on n'a pas enregistré des cas d'assassinat, mais il y a eu plusieurs fois des cas d'agression, d'attaque, de dépression, liés aussi à la période des élections. Mais comment expliquer cette montée pendant la période électorale?
Bon, nous avons eu la plupart des cas sur le dos de l'intolérance politique. Il y a eu une montée en flèche de l'intolérance politique, surtout dans nos provinces.
Oui.
Et ici aussi à Kinshasa, on a vécu cela. C'est-à-dire que ici, on n'accepte pas la critique. Quand on veut la démocratie, on devrait aussi accepter les débats. Un débat contradictoire, accepter d'être critiqué. Et quand on n'arrive pas à supporter les débats, facilement on préfère résoudre les problèmes par les biceps ou par tout ce qu'on a vu ici, des bombes incendiaires contre les médias, c'est des journalistes qui étaient pris à partie quelque part, tabassés, c'est une caméra qui était cassée quelque part. Donc
c'est les refus
des coupures là,
des signaux,
les coupures des signaux,
on en a parlé plusieurs fois.
Oui, oui, c'est des actes que nous avons déplorés, mais c'était juste le point de débat. On ne veut pas accepter la critique, que ce soit des côtés de pouvoir ou parfois aussi dans les cas de l'opposition, on ne veut pas accepter un débat critique. Donc on préfère les gens qui passent leur temps à chanter, à faire de la propagande, le culte de la personnalité, qu'à faire les vrais débats démocratiques. Alors que la démocratie voudrait qu'il y ait des débats, et sur les vraies questions, les vrais sujets. Mais quand on veut éviter les vrais sujets, commencer à parler de telle personne, de parler des œuvres de quelqu'un, et quand quelqu'un vient contredire, on estime que celui-là est soit contre vous et c'est une personne à éliminer. Et donc, c'est, on met tout ça sur...
Voilà. Nous allons cheminer ensemble, on va aussi écouter les auditeurs qui bénéficient, bien sûr, du travail de médias, de la presse. Nous avons Gauthier qui est à Kananga, Lazare qui est à Kinshasa, Ernest est à Matadi. Nous allons vous accorder la parole pour faire le point avec vous en fonction de là où vous êtes, là où vous vivez, ce que vous pensez de l'évolution de la liberté de la presse, bien sûr, sur, dans votre milieu.
Parole aux auditeurs.
Gauthier, vous êtes à Kananga au Kasaï Occidental, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. Je salue tous les auditeurs de la radio Kapi.
Voilà, nous parlons de l'évolution de la liberté de la presse. Dites-nous un peu la situation à Kananga, des cas concrets, ce que vous avez vu, comment cela a-t-il évolué, Gauthier?
Effectivement, Pierrot, en tout cas, il y a à boire et à manger dans ces dossiers. Je vais d'abord souhaiter faire comprendre, bon, moi personnellement, j'appelle la presse, c'est un quatrième pouvoir qui s'annexe au pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.
Mm-hmm.
Mais par moment, nous trouvons que nous voulons une chose et son contraire dans ce pays.
Ça veut dire.
Si nous avons opté pour la démocratie comme régime de gouvernance, j'aurais souhaité que nous mettions en garde et continuons à respecter tous ces principes-là. Ici, localement, en tout cas, ça n'a pas échappé à cette violation de la liberté de presse. Il n'y a pas très longtemps, pas plus tard que des semaines, il y a une chaîne locale qui a dû fermer pour 5 jours. Comme quoi, l'émission qui a été dépassée autrefois a touché les autorités locales. Donc pour ça, ils ont eu des répressions terribles, au point même de fermer la radio, et chose grave, parce que cette chaîne avait la télévision, mais le propriétaire a juste d'aller placer la télévision ailleurs pour éviter ce genre de choses. Pour répondre à cette question, je pense que il est question que nos autorités prennent conscience de ce plus belle de ce pays. Comme nous voulons vivre la démocratie, nous voulons bien brandir la démocratie au pays, on accepte que la liberté de presse existe. On accorde la liberté d'expression aux animateurs, aux organes. On dit que cette démocratie pour laquelle nous brandissons ou que nous brandissons ailleurs, soit effectivement là. C'est un peu la tête, ça, M. Pirou.
Merci, Gauthier. Vous êtes désolé, Kakan, il y a une pression. Peut-être que vous voulez avertir tout cela, une pression sur une station locale est forcée à le propriétaire de délocaliser. Mais du moins, vous pensez qu'il faut une prise de conscience et une volonté auprès des politiques pour que la liberté de presse puisse être effective. Nous retournons ici à Kinshasa, dans la capitale où se trouve Lazare. Vous êtes en ligne. Bonjour Lazare.
Merci, bonjour Pierrot, oui.
Vous avez suivi notre ami de Kananga, il a dit que la situation ne s'est pas améliorée, d'ailleurs les jeux d'appel constat, le responsable des rôles pageants aussi de les dire, mais vous aussi, il vous est demandé aujourd'hui de définir, de donner des propositions pour arriver au respect de la liberté de la presse, Lazare. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Merci, en tout cas, je vais terminer effectivement mon intervention par des propositions, mais je souhaitais dans un premier temps faire voir que la liberté de la presse est beaucoup plus manifeste sur les nouvelles culturelles, sur le sport. Les journalistes critiquent ouvertement les autorités de la fédération, les dirigeants de clubs et même l'arbitrage. Même si sur ce point-ci, je regrette qu'un organe de presse ayant acheté le monopole de diffusion d'un match, d'une ligue, puisse avoir des journalistes en faisant un reportage partiel à la manière d'un supporter 100%. Mais quant aux journalistes politiques, là, nous avons l'impression d'avoir des décennies de retard. D'autant plus que l'actualité étant au processus électoral, en regardant les autres, on se demande si nous sommes sur une autre planète. Regardez les autres comment hein, ça se fait. Souvenez-vous, il y avait deux membres de l'opposition, dont un est en séjour à Makala aujourd'hui et l'autre est devenu député. Ils avaient essuyé des balles par des inconnus pour des déclarations faites dans la presse, alors que ces déclarations-là ne déstabilisaient aucune institution sur la place. Hein. La fermeture de longue durée, jouant sur le pouvoir d'achat des travailleurs d'un organe de presse, pousse les responsables à conseiller les retenus qui parfois ne se justifient pas. La dissuasion par la répression pousse les journalistes du domaine politique essentiellement et public à être moins libres, comme si Dieu aurait refusé aux dirigeants actuels de faire vivre l'avènement d'une liberté de presse conforme aux lois. Mes propositions. Je demande que les députés proposent une loi pour que, quand il y a dérapage au point de vue politique, un organe de presse ne nous donne pas que les informations politiques, il y a les informations sportives. Et on coupe le signal comme si nous n'avons plus besoin d'autres. On peut pouvoir interdire l'intervention, par exemple, des journalistes politiques parce qu'ils auraient dérapé. Hein, avec l'aide, bien sûr, de l'organe de contrôle. Voilà. Et là, je serais d'accord. Donc, il y a une loi qui empêche donc de couper le signal, que ce soit de RFI ou bien d'un autre organe de presse, pour une raison d'une information seulement politique. Voilà ma proposition et je laisse les autres collègues aussi enrichir le débat. Je vous remercie.
Merci Lazare. Vous êtes à Kinshasa et vous pensez que c'est mieux d'avoir une loi qui puisse interdire formellement la coupure de signal de médias compte tenu d'une opinion politique exprimée. Et, bien sûr, si cette opinion ne rencontre pas la volonté du pouvoir public, qu'il y ait une loi qui interdit formellement la coupure du signal. Comme ça, ça va permettre aux journalistes politiques d'être libres. On va vous accorder la parole, monsieur Joseph Alain Kabongo. Nous allons écouter Ernest qui est à Matadi et Mathias qui est à Kalemie. On va revenir à vous pour commenter ces premiers points de vue des auditeurs. Ernest, vous êtes en ligne, bonjour. Ernest, bonjour, vous êtes à Matadi. Voilà, on a des soucis sur la ligne d'Ernest, mais nous allons à Kalemie. C'est dans la province du Katanga. Mathias, vous nous écoutez? Mathias, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, les deux auditeurs, Mathias de Kalemie, Ernest et de Matadi, on les a perdus. Directement, vous donne la parole, monsieur Joseph Alain Kabongo. Vous avez suivi les deux premiers auditeurs. On a eu Gauthier de Kananga qui s'est inquiété de la situation, mais qui pense qu'il faut une prise de conscience au niveau politique pour arriver au respect de la liberté de la presse. Mais Lazare va jusqu'à proposer une loi qui puisse interdire, par exemple, au ministère, parce que cela revient plusieurs fois au niveau du ministère de la communication et des médias, de couper les signaux de médias. Il faut une loi pour ça. Quel est votre point de vue par rapport à ces premières propositions des auditeurs?
Bon, je vu Gauthier, nous avons pratiquement émis sur la même longueur d'onde. Mm-hmm. Nous avons dit que tout ce qui se passe actuellement, c'est juste un manque de volonté politique des dirigeants. Parce que ce sont les dirigeants qui doivent juste assainir les cadres pour que la liberté de la presse puisse s'exercer effectivement. Mm-hmm. Pour notre auditeur de Kinshasa Lazare, la loi existe. Il y a la loi qui porte attribution et fonctionnement du CESAC. Mm-hmm. Cette loi montre les différentes sanctions que l'on devrait appliquer à un média lors d'un dérapage. Et c'est la loi du 11 janvier 2011. Mm-hmm. Dans cette loi, le CESAC a le pouvoir de retirer la fréquence, c'est ça le signal. Mm-hmm. Mais le retrait d'une fréquence est une mesure extrême. Donc, avant d'en arriver là, on devrait appliquer d'autres mesures. Et il y a une procédure à suivre. Quand un média a commis des bévues, on invite les responsables de médias, son directeur de programme, qui vient s'expliquer. On prend ses moyens. Et quand on constate que ça ne va pas, sans ce moment, on enclenche la procédure des sanctions. Mais la coupure des signaux telle que ça se fait actuellement, c'est pratiquement des mesures politiques. Et il y a ce méli-mélo que nous avons toujours déploré au niveau de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, ce méli-mélo entre les ministères de la communication et des médias et le CESAC. Donc nous n'arrivons pas à comprendre quelles sont les vraies attributions des ministres de la communication et des médias et quelles sont les attributions de ces sacs. C'est cette confusion qui amène les ministres. Et d'ailleurs, les personnes qui coupent des signaux, on ne sait pas. Est-ce qu'il vient directement du ministère de la communication des médias ou des téléconsultes qui gèrent
le matériel.
Oui, oui. Donc, c'est une émission, les gens sont là en train de parler et tout d'un coup, il n'y a plus de signal. Et vous apprendrez demain que non, tel a reçu un coup de fil, on lui a dit de couper. Et quand vous allez au CESAC, le CESAC vous dit non, non, nous examinons les cas et nous vous répondrons dans 48 heures. Et après, quelques heures après, vous apprenez que le CESAC vient de cautionner cette mesure illégale et vous applique par exemple une suspension des émissions de 7 jours. Vous comprenez.
D'ailleurs, on aura, dans cette émission, le rapporteur adjoint du CESAC hein, qui pourra donner un point de vue, parce que les auditeurs s'inquiètent effectivement sur le rôle du CESAC dans ça, le rôle du ministère. On pourra avoir un peu d'éclaircissement en fait, avec lui, si il pourra être avec nous sur les antennes. Mais revenons à ce que Lazare a parlé du fait que les journalistes politiques ne puissent. Et subir des pressions qui ne font pas à ce qu'ils soient libres. Mais est-ce que toutes les pressions que les journalistes reçoivent, c'est la question d'ailleurs que l'UNPC pourra aussi répondre dans cette émission, y a-t-il toujours des erreurs de la part du pouvoir public dans toutes ces pressions, dans tout ce qui arrive, où les journalistes ont-ils une part des responsabilités?
Bon, la part des responsabilités des journalistes, on ne peut pas l'occulter. Le code d'éthique et de déontologie professionnelle exige aux journalistes de croiser toujours ses sources.
Mm-hmm.
Et vous verrez, les gens qui croisent souvent ces sources ont aussi moins de problèmes. C'est-à-dire qu'ils respectent plus ou moins le code d'éthique et de déontologie. Mm-hmm. Vous verrez que dans 70% des cas, les journalistes qui respectent le code d'éthique et de déontologie ont moins de problèmes. Le meilleur respect du code, c'est d'abord croiser les sources. Mm-hmm. Quand vous parlez de quelqu'un, chercher quand même à voir son de cloche, sa réaction. Très peu de journalistes font cela. Nous savons aussi pourquoi. Donc, il y a des problèmes au niveau du métier et qu'il faudrait régler. Donc, on dit toujours que là où il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de loi. Donc, quand il y a les causes des cycles de déontologie, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y aurait quand même des transgressions.
Mmh.
Mais les gens devraient être responsables, ça on le sait, en respectant les dispositions qui régissent les métiers. Mais il y a un vrai problème, l'environnement même de la presse. C'est parfois aussi l'environnement qui pousse beaucoup les journalistes à la faute.
Mmh.
Les gens qui manipulent les journalistes, ce sont les gens qui ont des moyens. Quand ils donnent beaucoup plus de moyens aux journalistes pour commettre certains bévues, commettre certaines fautes professionnelles, c'est parce qu'il est le plus offrant. Le point, c'est que le contexte même économique du travail des journalistes, c'est un contexte très difficile.
Mm-hmm.
Les gens ne sont pas payés. C'est des journalistes qui vivotent presque. Beaucoup n'ont pas de contrat de travail, c'est un problème récurrent. On l'a toujours dit, les problèmes de contrat. Après le congrès de refondation de l'UNPC, on a parlé de cette affaire de contrat et on a vu tous les médias mobilisés, les acteurs de médias mobilisés et après un temps,
c'est un silence. Voilà.
Mm-hmm.
Alex, vous êtes à Kinshasa, Abdallah et Amatadi et Piro Italikassi. Nous commençons avec vous directement. Alex, vous êtes ici dans la capitale, bonjour. Alex, vous êtes en ligne, bonjour. Assurément, on a des petits soucis de ligne, je crois bien, avec Alex. Nous avons Amatadi Abdallah, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, bonjour Pierrot.
Bonjour Abdallah, nous faisons le point sur l'évolution de la liberté de la presse à l'occasion, bien sûr, de la célébration de cette journée. Et aussi, on formule des propositions parce qu'il faudrait qu'on ait des solutions, que les choses puissent s'améliorer, puissent avancer. Quel est votre point de vue, Abdallah?
Merci beaucoup, Pierrot. J'ai suivi les auditeurs, l'un de Kananga et celui de Kinshasa. J'ai déjà bien suivi, j'ai suivi les propositions qu'ils ont avancées.
Mm-hmm.
Le problème de la liberté de l'expression et du média dans notre pays a toujours connu des problèmes politiques que tout le monde peut identifier facilement. Nous avons différents médias, même dans le monde, dans des pays à haute démocratie, si on peut le dire, il y a deux médias gouvernementaux, il y a deux médias publics, deux médias privés. Et les rôles de tous ces médias, c'est de dénoncer, de clarifier toutes les situations possibles. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays. les informations ne sont pas bien données. C'est nous, la population, qui sommes la première consommatrice de l'information provenant de médias, que ce soit public ou privé. Et ce que nous voyons chez nous, ce que nous constatons, ce n'est pas vraiment de la vraie information que nous sommes en train de consommer, mais c'est plutôt de la démagogie politique que les journalistes que nous connaissons nous proposent à travers le média que nous sommes en train de vivre chez nous. Et la seule proposition que je vais peut-être proposer aux médias et aussi aux autorités, c'est de respecter le rôle du journaliste en tant que tel, de bien donner l'information, de vérifier cette information et que les journalistes ne soient pas empêchés, quelle que soit la politique de notre pays, puisque nous avons déjà adopté la démocratie. Il faut que les journalistes vivent dans la démocratie, dénoncent tout ce qu'il peut dénoncer, tout ce qu'il a vérifié, que ce soit dans le camp des gouvernants, que ce soit dans le camp de l'opposition. Il faut que les journalistes donnent une vraie information pour que la population puisse changer ensemble avec le média et adopter le système démocratique que nous sommes en train de prôner.
Merci. Merci Abdallah, vous êtes à Matadi, vous êtes revenu sur les problèmes de la liberté des journalistes, mais vous pensez qu'il faut de nouveau du pouvoir public laisser les journalistes libres, surtout ne pas entraver, ne pas l'empêcher à avoir accès à l'information et surtout diffuser une information vérifiée. Nous avons Pierrot qui est à Likassi au Katanga. Bonjour Pierrot.
Bonjour Monsieur Pierrot.
On vous écoute. Vous avez suivi Abdallah qui pense qu'il revient au pouvoir public de laisser cette liberté aux journalistes et surtout de ne pas l'empêcher à donner une information, mais il a ajouté le fait que l'information soit vérifiée. Que faut-il encore ajouter, Pierrot, pour assurer l'évolution de la liberté de la presse en RDC?
Ok, merci Pierrot. J'ai une petite préoccupation, je l'adresse à M. Joseph Alain Kabongo.
Oui.
J'aimerais que nous commencions par définir exactement ce que nous devons entendre par liberté de la presse. La liberté de la presse est laisser à la presse la liberté de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est-à-dire, est-ce que le journaliste, il doit tout dire et sans aucune censure? C'est-à-dire, quand je parle de la censure, je considère que la majorité de la population congolaise est analphabète. Pensez-vous que lorsque vous avez affaire à la majorité de la population analphabète, vous pensez que c'est mieux de laisser aux journalistes la latitude de livrer n'importe quelle information, même si cette information peut entraîner des troubles au sein de cette population-là? Merci.
Voilà, merci Pierrot. Vous êtes à Likassi, vous avez posé la question de savoir s'il faut définir la liberté. Est-ce que c'est laisser aux journalistes la liberté qu'ils disent toute la vérité, qu'ils donnent n'importe toute l'information, même temps bien sûr l'information, et troubler l'ordre? Vous avez fait référence au fait qu'on a beaucoup de gens sont pas partis à l'école, ils sont analphabètes, faut-il les laisser consommer tout ce que les journalistes donnent sans pour autant censurer? Et c'est le terme que vous avez utilisé, notre invité, parce que vous lui avez adressé cette question, il pourra commenter cela après l'intervention de Alex qui est à Calémie. Bonjour Alex.
Bonjour, bonjour monsieur.
Donc je vous écoute Alex.
Alors, pour mon intervention, parce que moi je voudrais qu'on en revienne un peu, parce que je pense que tout n'est pas à mettre soit du côté, soit à ne pas être pessimiste,
mm-hmm.
et à montrer que c'est seulement qu'au niveau du pouvoir qu'on est en train d'enfreindre la liberté de la presse. Moi, je suis en train de voir que à l'RDC, c'est aussi un pays où même les journalistes se permettent même d'injurier le président de la République, d'injurier même le ministre. Ça, c'est plus que même la liberté de la presse. Mm-hmm. C'est plus que même en France, vous voyez. Alors, moi, je pense que au niveau de l'RDC, la liberté de la presse a évolué jusqu'à un certain niveau. Bien sûr qu'il y a des dérapages, n'oublions pas qu'il y a des moutons noirs aussi dans le média, ou soit dans le métier. Quelqu'un se réveille le matin, il commence à raconter tout ce qu'il raconte, et après quand on essaie de le poursuivre, afin de vérifier les sources, il n'arrive pas à brandir les sources. Bien sûr qu'on est journaliste, mais quand même qu'il y ait un minimum aussi d'éthique et de déontologie. Est-ce qu'il y a des recrutements? L'UNPC va nous les dire. Est-ce que l'UNPC Mais c'est quoi là? C'est que ça va lier quelque chose, je pense. Est-ce qu'il discrimine pas aux journalistes? Là, il y a des problèmes. Même, on ne sait même pas, est-ce que les journalistes qui sont recrutés ont la formation? Ça, on ne sait pas. Alors, pour ce genre de journaliste qui se réveille un bon matin et puis il injurie tout celui qui passera devant ses yeux, en fait, il y a un problème. Donc, je pense que la liberté de la presse, à l'RDC, a évolué jusqu'à un certain niveau. Parce que l'RDC, c'est un pays post-conflit, mais on pense qu'il faut qu'il y ait une liberté de la presse plus que même la France, hein, qui a connu la démocratie il y a longtemps. C'est ça ma contribution, monsieur.
Merci, Alex. Vous pensez qu'il y a eu une évolution de la liberté de la presse, mais vous posez un problème sur la responsabilité du journaliste. On a déjà évoqué ces cas. Faudrait-il que quelqu'un puisse passer au micro, puisse écrire n'importe quoi, des insultes, des injures, et quand il sera poursuivi, on va dire, voilà, on est en train de museler la presse. Et c'est cette question aussi qui a été posée à notre invité par Pierrot des Icassi, qui a dit savoir s'il faut que les journalistes disent toute la vérité sans tenir compte de son auditoire, sans tenir compte, bien sûr, des faits et leur impact sur la société. Merci. Appelez-nous au 0-81-890-6315 pour intervenir. Ferdinand, vous êtes à Kindou, gardez la ligne. On va vous accorder la parole après l'intervention de notre invité tout de suite après ces quelques secondes.
Chaque jour, la fréquence de la PMI le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Monsieur Joseph Alain Kabongo, nous revenons à vous. Vous avez suivi les auditeurs qui sont revenus sur la responsabilité du journaliste parce qu'on avait déjà évoqué cette question. Il y a Pierrot qui a posé la question de savoir pour lui, la liberté, ça veut dire quoi? Faudrait-il laisser le journaliste raconter tout ce qu'il veut sans tenir compte de la population, de la société? Alex a dit la même chose. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui racontent n'importe quoi et quand il sera poursuivi ou interpellé parce qu'il n'est pas en mesure de fournir les sources et puis on va dire qu'on a muselé la liberté de la presse. Hein, ils ont posé cette question et directement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faudrait-il laisser les journalistes raconter tout ce qu'ils veulent sans tenir compte du contexte, sans se censurer, parce qu'il a utilisé ces termes-là. Je tiens à nos auditeurs que nous avons aussi en ligne monsieur Polydor Mubanga, qui est le président de l'Observatoire des médias congolais, OMEC, qui pourra aussi avoir la parole. C'est juste après aussi votre intervention et aussi l'intervention de Alex qui est à Kalimi.
Oui, Pierrot, j'aimerais montrer aux auditeurs de Radio Capi que la liberté de la presse que nous avons ici au Congo, c'est pas un cadeau. C'est une liberté qui a été conquise au prix de plusieurs sacrifices. Et la liberté des presses, c'est un corollaire. Donc, c'est la conséquence de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme
et la Constitution de la République.
La Constitution, même le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont notre pays est partie. Donc, c'est une obligation de notre État de faire respecter la liberté d'expression et d'opinion. Donc, quand on s'engage dans ce type d'engagement, donc, quand on fait partie de cet instrument juridique, donc c'est une obligation, on doit assainir les cadres pour que cette liberté puisse réellement s'exercer. Mm-hmm. Donc les auditeurs devront comprendre que la liberté des presse aujourd'hui, c'est pas un cadeau qu'on a offert aux journalistes, mm-hmm. mais il y a quand même les lois qui ont organisé ça. Il y a une loi ici, la loi de 96, qui fixe les modalités d'exercice de la liberté de la presse. Et pour créer un média, on doit se conformer à cette loi. Donc, il y a un cahier de charges, il y a autant de conditions pour créer un média. Mmh. Donc, c'est pas quelqu'un qui se lève un matin, comme un auditeur dit, qui passe devant les antennes et se met à injurier. Mais dans chaque média, on peut s'organiser pour avoir une charte interne. Mmh. Qu'est-ce qui doit passer dans les médias et qu'est-ce qui ne doit pas passer?
Mais les journalistes, je pense que les journalistes, aujourd'hui, c'est quand même des journalistes responsables. Il y a, le Congo est tellement immense, et que tous les journalistes, avec ces 250 ou 300 radios, qui comptent les pays actuellement, et plus de 80 chaînes de télévision, et autant d'organes de presse écrite, je ne crois pas que tous les journalistes, même ceux du Congo, pourtant, pourraient venir ici à Kinshasa, faire des études à l'IFACI pour le département de communication de l'Université de Kinshasa. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelques extensions de l'IFACI dans nos provinces. C'est déjà un grand effort pour aider ces jeunes qui n'ont pas pu avoir l'occasion d'étudier comme les autres, à accroître ou à meubler leurs connaissances. Mais en dépit de cela, la profession journalistique, c'est une profession libérale et ouverte. On ne subordonne pas l'accès à cette profession à un serment ou quelque chose comme ça. Donc, on devrait comprendre que les journalistes qui travaillent, ils doivent être responsables, ils doivent respecter les règles de son métier, mais il ne faut pas toujours tirer que sur les journalistes. Je l'ai dit ici au début que là où il n'y a pas de transgression, il n'y a point de loi. Le corps des journalistes, c'est un corps de métier. Il y a le corps des magistrats, il y a le corps de médecins, il y a le corps de des agriculteurs, des
pharmaciens.
Mais vous savez qu'il y a toujours des dérapages dans tous ces secteurs-là. Mais les efforts devront être faits pour que les gens se responsabilisent. On devrait encourager nos journalistes à être des journalistes responsables. Mais ne pas passer le temps à dire que non, ces gens ne font rien. Non, nos journalistes ont fait beaucoup. Et je vous assure que les processus de démocratisation des 90, c'est notre presse qui a joué un très grand rôle. Et même en 97, avec la libération de 97, vous avez constaté que la presse congolaise a joué un grand rôle pour fragiliser les régimes dictatoriels de Mobutu. Et la presse a également influé tous les progrès que nous enregistrons peut-être aujourd'hui. La presse a fait beaucoup de choses. Mais dire qu'il y a beaucoup plus de liberté ici qu'en France, c'est pas vrai. Notre liberté se dégrade. La liberté de presse qu'on a eue entre 97 et 90, 90 et 97, et celle que nous regardons aujourd'hui, je pense qu'il y a une dégradation.
Ferdinand, vous êtes à Kindu, au Maniema, bonjour. Ferdinand, vous êtes en ligne, bonjour, on l'a perdu, oui, voilà, nous allons revenir ici à Kinshasa, nous avons M. Polydor Mouboyaï qui est en ligne, bonjour monsieur.
Bonjour.
Nous parlons aujourd'hui, bien sûr, c'est la journée de la liberté de la presse. On dégage avec les auditeurs l'évolution de la liberté de la presse en RDC. Nous en avons déjà peut-être discuté avec vous encore une fois sur les antennes des radios Okapi. Si je pouvais vous poser cette question par rapport à ce que les auditeurs ont pensé, il y en a qui ont pensé que les choses ont beaucoup évolué. Mais d'un côté, il y a des rapports qui montrent que depuis les élections 2011 jusqu'à ce moment, on a eu 64 cas d'attaque d'attaque envers la presse, c'est que la situation se dégrade. Alors la question que je m'avais vous poser, c'est qu'on sait que les auditeurs ont pensé, c'est de savoir, est-ce que c'est un problème manifeste de la volonté au niveau du pouvoir public de museler ou d'étouffer la liberté de la presse? Ou bien il y a le mélange entre les deux, d'un côté cette volonté et d'un côté aussi les dérapages causés par les journalistes qui font à ce que ces derniers s'exposent à ces comportements au niveau du pouvoir public.
Bon, là, il y a deux éléments dans votre question. Il y a les dérapages d'un côté et puis il y a la volonté politique de l'autre. Ce que nous pouvons constater, ça c'est même lorsqu'on fait des monitoring au quotidien de comportement des médias, c'est que il y a d'abord un effort qui est fait, qui est mené, qui est palpable au niveau des médias, un effort d'informer, mais ce qu'on demande aux hommes et aux femmes des médias, c'est de faire ce travail-là en toute responsabilité et dans la parfaite rigueur. La rigueur implique donc le respect des règles d'éthique et de déontologie professionnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas diffuser une information si on n'est pas sûr qu'elle est vraie, si on n'a pas fourni l'effort nécessaire pour la vérifier, pour croiser les sources, pour s'assurer qu'effectivement, elle est fiable. Donc, d'abord, c'est de l'éducation-là, et ensuite, il y a l'aspect responsabilité, c'est-à-dire, bon, écoutez, regarder est-ce que cette information-là est de nature à perturber la paix sociale, est-ce que l'information mérite d'être portée d'être mise à la disposition du public. Eh bien, c'est l'article 24 de la Constitution qui nous rappelle que le peuple a le droit d'être informé. Et que donc, s'agissant de la marche de la cité, nous avons donc cette responsabilité-là de porter les informations à la connaissance de la population. Mmh. Alors, où se trouve là où entre en ligne la responsabilité de l'État, la responsabilité des politiques. C'est lorsque on observe le champ médiatique, on se rend compte que il y a de vrais problèmes au niveau de la volonté politique. Cette volonté politique, elle est d'abord perceptible au niveau de l'indépendance des médias. Vous savez, on se bat depuis de très nombreuses années, depuis la loi de 81, les lois, parce qu'il y en a eu plusieurs en 81, depuis ces lois-là, on se bat pour qu'il y ait un esprit d'indépendance, et l'indépendance financière, cela s'entend, parce que le reste est publicitaire, ce sont des corollaires, si vous voulez, ça découle de cette indépendance financière. On s'est battu pour cela. Mais tout le monde sait qu'il y a des prescrits de la loi qui formalisent effectivement cette indépendance-là, qui formalisent parce que l'information est mise à la disposition du public, il est important que l'État intervienne pour faciliter la récolte, faciliter toutes les démarches nécessaires qui finissent par qui aboutissent effectivement à la récolte, non seulement à la récolte, mais à la diffusion, etc. Donc, il faut que l'information soit mise à la disposition du public à moindre coût. Pour qu'elle soit mise à la disposition du public à moindre coût, il faut donc quelque part une intervention de l'État, parce que c'est l'État qui exige que l'information soit mise à la disposition du public. Mais à ce niveau-là, l'État n'a jamais voulu faciliter la tâche aux médias. C'est depuis 1981, j'insiste. La loi de 1996 a repris les mêmes dispositifs. Et ce dispositif n'a jamais été appliqué. Il y a la loi générale, mais maintenant il s'agit simplement qu'on prenne des arrêtés d'exécution, et ces arrêtés n'ont jamais été pris par aucun ministre des différents gouvernements qui se sont succédés. Donc quelque part, on ne veut pas faciliter la tâche aux médias. On reproche bien des choses aux médias, mais on ne fait rien aux médias. On attend beaucoup des médias, mais rien n'est fait pour faciliter la tâche des médias. Donc là, il y a la responsabilité des politiques. Et les mêmes politiques interfèrent maintenant dans le travail des médias. On le voit avec la multiplication des médias, donc la création effrénée des médias. C'est chaque responsable politique qui veut avoir son propre média pour diffuser le message tel qu'il l'entend et non tel que l'exige les règles qui fondent le métier d'informer. Donc, on crée les médias, on fait appel à des journalistes, les journalistes arrivent et ils se retrouvent dans un cadre très contraignant où on leur dit, écoutez, c'est ça que vous devez dire, vous dites cela ou vous prenez la porte. On est dans un pays où il y a plus de 90% de chômeurs. Et lorsque quelqu'un a pu avoir un strapontin quelque part, il te dit, mais écoutez, si je ne diffuse pas ce qui m'est demandé là par le propriétaire, mais donc demain, moi je suis sans avenir, mes enfants sont sans avenir, je vais me retrouver à la porte de la maison que je loue, etc., etc. Ça, ce sont des vrais problèmes que nous posent les politiques. Maintenant, en dehors de ces cas-là, on parle des dérapages. Effectivement, les dérapages, ils sont là. Les dérapages, ils sont là, et c'est pour ça qu'il y a les instances d'autorégulation. Les instances d'autorégulation sont là pour essayer, veiller à ce que les journalistes fassent leur métier comme il se doit, conformément à l'éthique, conformément à la déontologie. Nous veillons, nous prenons connaissance de tout ce qui est diffusé, et on signale là où il y a des prises et des prises de liberté avec les règles fondatrices du métier d'informer, eh bien, on signale aux concernés, on leur dit, écoutez, là, messieurs, vous n'avez pas respecté les règles, vous faites en sorte que prochainement, vous puissiez travailler comme il se doit. Voilà, et on signale ce qui mérite d'être signalé. Mais pourquoi les dérapages continue. Le dérapage continue, c'est encore une fois l'environnement politique. L'environnement, bien sûr, on dira, il y a l'environnement social, l'environnement financier, c'est ce que vous voulez, mais il y a surtout l'environnement
politique, voilà.
Mmh. Oui, c'est cet environnement qui fait que, à un moment donné, lorsque ceux qui sont à la base des informations non diffusées, non vérifiées, qui sont à la base de la diffusion des informations qui portent atteinte à l'honneur, à la dignité de tiers, et lorsque ceux-là ont une parcelle de responsabilité au niveau,
voilà,
au niveau, ah oui, voilà, au niveau de l'État, ces gens-là commettent l'impunité à ceux qui violent les règles d'éthique et de l'intégrité professionnelle. Voilà. Deux fois, il arrive que les instances d'autorégulation prennent des sanctions. C'est déjà arrivé jusqu'au niveau d'ordre de la commission des disciplines de l'Union nationale de l'Afrique du Congo, qui a le pouvoir de suspendre provisoirement ou à titre définitif, si cela est nécessaire, hein, le droit d'exercer. Lorsque ces sanctions-là doivent être prises, tout de suite, vous voyez les protecteurs surgir du bois.
Merci.
Et ils viennent, ils menacent. Ce sont ces interférences qui sont au cœur de problèmes que nous vivons dans notre métier, et il va falloir se battre pour qu'effectivement chacun fasse le travail qui relève de lui et qu'on laisse les journalistes faire leur travail en toute indépendance et en toute liberté.
Merci beaucoup, monsieur Polydor Mogoyaï, de ces points de vue et surtout de toutes ces explications. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de l'OMEC, Observatoire de médias congolais. Nous allons prendre rapidement Christian qui est en Bandaka et président qui est à Kindu, le temps d'écouter aussi le rapporteur adjoint du CESAC parce qu'on tend vers la fin de l'émission. On va écouter les deux auditeurs qui sont sur les antennes et pour accorder aussi la parole au CESAC. Christian, vous êtes en ligne, bonjour. Christian, bonjour. On a des petits soucis de ligne téléphonique aujourd'hui. Christian, on l'a perdu. Ferdinand, vous êtes sur les antennes, vous nous appelez de Kindu au Maniema. Bonjour, Ferdinand. Voilà. On a aussi des soucis. Je crois bien que le téléphone nous a posé des petits soucis aujourd'hui. Nous étions en train d'écouter le président de l'Observatoire de médias congolais qui est revenu sur la responsabilité, que ce soit au niveau du pouvoir public, que ce soit aussi au niveau du pouvoir public, que ce soit au niveau de la profession. Mais je crois d'un moment à l'autre, on pourra aussi avoir le représentant du CESAC, hein, parce qu'on est revenu par rapport au CESAC dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Et l'émission d'aujourd'hui est consacrée à la célébration de la Journée internationale de la presse. C'est 3 mai 2012. Une journée, comme je l'ai dit, célébrée, bien sûr, instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était en 1993. Nous allons vous accorder la parole, monsieur Joseph Alain Kabongo, pour une minute, ajouter quelque chose sur ce qui a été dit par le président de l'OMEC et les autres auditeurs, avant qu'on écoute le représentant du CESAC, si ça sera possible. On a un petit souci avec les lignes téléphoniques. Voilà, nous avons maître Lumba qui va être sur les antennes. Le temps que vous puissiez commenter, placer un mot sur ce qui a été dit par le président de l'OMEC, on va lui accorder la parole.
Bon, je partage largement le point de vue du président de l'OMEC, que je salue en passant. Vous comprenez que au niveau de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, tout comme au niveau de l'OMEC, nous, la grande responsabilité appartient à l'État. Donc c'est d'abord à l'État congolais de faire un grand effort pour favoriser vraiment l'exercice de la liberté de la presse.
Voilà, nous avons en ligne maître Lumba. Vous êtes le secrétaire adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Bonjour maître Lumba.
Oui, bonjour. Pour la présentation, je suis maître Lumba Lumasanga. Lumba, je suis donc rapporteur adjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. J'enseigne le droit de l'information et de la communication à l'UNIQUIN, à l'IFGC, à l'université.
Voilà, merci. Voilà, merci. Voilà, merci. Voilà. C'est bon, merci. Voilà. On revient maintenant, nous parlons aujourd'hui des 3 000 de la liberté de la presse. On a eu un rapport des journalistes en danger qui fait état d'une dégradation de la liberté de la presse depuis les élections. On est à 64 cas d'attaques qui visent les journalistes et nous dégageons aussi des pistes de solutions pour qu'on arrive à mettre fin à cela. Comment expliquez-vous cette dégradation au niveau du CESAC, Maître Lemba?
Bon, évidemment, si on parle des dégradations, c'est sur base des données objectives à leur disposition et dont je ne dispose pas. Pour ce qui me concerne, il me revient de constater que notre presse jouit d'une liberté relativement large, parce que, vous savez, la liberté de la presse, c'est d'abord un état d'esprit, hein. C'est d'abord l'indépendance d'esprit du journaliste, du directeur de publication ou du directeur de programme, c'est d'abord l'état d'esprit de l'éditeur. Mais il y a évidemment des problèmes nombreux qui se posent. D'abord, la presse congolaise appelle les moyens de sa liberté. Vous voyez, c'est complexe. Mais évidemment, lorsqu'on voit la liberté du journaliste ici, à travers les entraves qui viennent de gauche et de droite, on peut effectivement dire que cette liberté est en difficulté. Mais quand on voit les contenus diffusés dans la presse, on se rend compte que cette liberté est assez large. Tout à l'heure, un de vos auditeurs a affirmé que la liberté de la presse des journalistes, dans les chefs des journalistes congolais, par rapport au contenu diffusé, est bien plus large que la liberté dont jouissent certains journalistes dans des pays de vieille démocratie. Je peux même vous donner un exemple. Un éditeur français qui tire un journal commence par déposer des inventaires au parquet. Alors vous comprenez pas, un journaliste français, et c'est de par la loi française, hein, vous tirez votre canard, je ne sais pas combien d'exemplaires, les tout premiers exemplaires, avant que votre canard ne s'écoule, c'est auprès du procureur de la République que vous les déposez. Et vous comprenez que c'est un mécanisme légal à leur niveau et qui contribue à réduire directement le nombre de dérapages, qui fait qu'en France, la presse écrite n'est pas soumise à régulation, hein, c'est pas le champ de régulation qui s'occupe de la presse écrite, hein, parce que le parquet,
voilà. Mais pour revenir, voilà, maître Lumba, pour revenir au cas de la RDC, les auditeurs ont évoqué au début le problème de coupure des signaux, des fermetures de médias. Par conséquent, qu'il y a des difficultés chevauchement au niveau du CESAC. Peut-être le CESAC subit quand il y a par exemple la coupure d'un signal de médias, le CESAC vient en seconde position au niveau le ministère a déjà pris la décision. Mais à quel niveau là?
Oui. Franchement, il m'a été donné d'expliquer, et merci de me donner encore l'occasion de le faire. C'est-à-dire, la loi, les institutions se complètent. Lorsque les services de l'ordre, il y en a beaucoup de services de l'ordre, je ne veux pas me qualifier pour les auditeurs, lorsque les services de l'ordre constatent que quelque part l'ordre public est perturbé, ils agissent d'abord juste à conduire le délinquant présumé au parquet. En matière du droit de l'information et de la communication, c'est le même principe. Lorsqu'un service, une autorité publique constate que quelque part, que ce soit dans le domaine de l'information, l'ordre public est menacé et l'ordre public est troublé, il agit d'abord à son niveau, tout à conduire le dossier auprès du CESAC. Mais compter sur l'indépendance dont joue le CESAC. Parce que les CESAC, vous le savez, c'est une quinzaine de personnes expérimentées, indépendantes, parce que ils ne sont pas imposés, n'est-ce pas, par qui que ce soit. Ils sont librement choisis par différentes corporations, organisations et certaines institutions sur base de leur expérience, de leur expertise et de la moralité. Ces 15 personnes, lorsqu'ils agissent, c'est en connaissance des causes, ce n'est pas pour entériner une décision qui vient de gauche ou de droite.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Lumba, pour toutes ces précisions. On est en train de terminer cette émission. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. C'est ça que nous allons revenir dans ce studio pour accorder la parole à notre invité et clôturer cette émission et la conclure. Nous avons écouté les uns et les autres, Monsieur Joseph Alain Kabongo, on a écouté les uns et les autres, on a tiré, on a écouté écouter aussi les propositions des auditeurs. Nous avons besoin que les choses puissent s'améliorer. En bref, pour 2 minutes et demie, qu'est-ce que nous pouvons retenir en cette journée pour l'avenir de la liberté de la presse en RDC?
Bon, nous devons comprendre que la situation se dégrade et qu'il y a péril dans la demeure. Il est important que l'autorité prenne la mesure de la situation. C'est ainsi que nous pensons qu'aujourd'hui, avec les nouvelles institutions, notamment le Parlement, on peut engager des réformes un peu plus profondes pour assainir le cadre juridique de la presse.
Il y a même des initiatives, je me rappelle encore du temps de l'association des radios communautaires, qu'on pensait qu'il faut même une loi pour la dépénalisation des délits de presse. Peut-être que ça peut résoudre le problème.
Bien sûr, en dehors de la dépénalisation des délits de la presse, il y a aussi l'accès aux sources d'information, notamment les sources publiques d'information. Aujourd'hui, les journalistes ne peuvent pas se pointer dans n'importe quelle institution pour chercher des informations qu'on appelle entre guillemets sensibles ou délicates. Donc, il devra y avoir ces efforts pour réformer quand même nos lois et initier d'autres lois pour aider les médias à faire vraiment le travail qu'on attend d'eux.
Et au niveau des autres, de l'observatoire, comme vous par exemple, est-ce que vous vous limitez tout simplement à faire le monitoring, à présenter ces cas, ou vous avez aussi une action envers le pouvoir public pour les amener ou soit les sensibiliser, les faire comprendre les rôles qu'ils doivent jouer, comme nous l'avons décrit aujourd'hui, par rapport à cette liberté?
Les actions de plaidoyer, nous les menons régulièrement. À chaque fois qu'il y a parfois des cas d'atteinte à la liberté de la presse, nous saisissons les autorités avec des lettres de protestation. Des fois, nous sollicitons des échanges avec certaines autorités. Et tout dernièrement, nous avons même soutenu une action des autres organisations de défense de la liberté de la presse qui appelait les ministres, les premiers ministres à supprimer les ministères de la communication des médias. Nous avons soutenu ce point de vue et nous avons regretté que le premier ministre Matata Ponyo a reconduit le ministère de la communication des médias. C'est comme si les autorités trouvent toute cette action liberticide menée par ce ministère durant l'année 2011, c'est comme si on veut saluer, on veut récompenser le ministre pour... Mais nous sommes toujours optimistes et nous pensons que cette fois-ci, il y aura de nouvelles orientations et qu'on va améliorer le cadre de la liberté de la presse.
Merci beaucoup, M. Joseph Alain Kabongo. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux auditeurs. Hein. Ils ont été nombreux, mais des fois aussi on a été discuté avec la ligne téléphonique. On s'excuse. Et surtout aussi auprès de Pius qui est en Bujumaï. Vous étiez déjà en ligne. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis de vous faire intervenir. Mais pour tous ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de passer, nous vous disons tous merci.
Au revoir.
Allô? 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 Mais, il ne répond pas?
On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine et nous allons parler de la lutte contre la corruption avec cette campagne de sensibilisation tenue dans les écoles, institutions d'enseignement supérieur et universitaire du pays à l'initiative de l'Association africaine de lutte contre la corruption. Que pensez-vous de cette initiative dans la lutte contre la corruption? Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiokapi.net. Merci à Marie-Chantal Lumba, merci à Tim Poutou et Sylvain Matundou pour la réalisation de cette émission sous la supervision de Nicole Ngaka. Vous pouvez la retrouver sur www.radiokapi.net. Au revoir.
Il est 12h.
Radio Okapi.
Le journal avec Babel Bongo.
Okapi.
Bonjour, journée internationale de la liberté de la presse aujourd'hui. Plus de justice pour les journalistes assassinés ou menacés, c'est ce que demandent les hommes des médias de ceux qui vous. Ils ont participé à une procession ce matin jusqu'au cimetière des Brasseries à Bukavu. Dans ce journal aussi, le point sur la situation de la presse au Kassai-Oriental. Nous serons dans l'Équateur avec le report du rapatriement des Congolais de la RDC et toujours au Congo-Brazzaville. C'est finalement samedi 5 mai que ces personnes devraient commencer à rejoindre le nord de la province de l'Équateur, annonce le HCR. En Ituri, l'ONG Justice Plus dénonce le pillage des ressources naturelles congolaises par un groupe chinois à Komanda et à Nyanya et affirme que ces Chinois extraient du sol une dizaine de kilos d'or par jour. Célébration aujourd'hui 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse. Tout se justice pour nos confrères assassinés et pour ceux qui sont menacés. Les assassins de nos confrères doivent être trouvés et punis. C'est ce qu'on a pu lire ce matin sur les calicots des journalistes et autres professionnels des médias de Bukavu. Ils ont fait une procession jusqu'au cimetière de la Brasserie dans la commune de Bagui.